France Culture.
Esprit de justice qui, ce soir, va vous faire entrer en prison pour se demander si la peine a un sens. La peine peut-elle avoir un sens? Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. On peut disserter d'abord sur le sens de la punition avec les grands philosophes. On peut se reporter aux différentes doctrines pénales. Mais la démarche que vous propose Esprit de justice ce soir est originale, car je suis allé en prison demander aux différentes parties prenantes de la peine de répondre elles-mêmes à cette question. Différentes parties prenantes, c'est-à-dire les détenus, et les personnels de l'administration pénitentiaire qui sont chargés de les surveiller et de les accompagner. Il y a en effet un fossé entre le sens prêté, le sens supposé, celui que la société, via ses lois et ses institutions, aimerait donner à la peine, et le sens vécu de ceux qui la subissent et de ceux chargés de la mettre en œuvre. Tous surveillants, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, retenez bien cet acronyme, les CEPIP, on va beaucoup en parler ce soir. Donc les CEPIP, mais les détenus, leurs proches, tous ont une expérience de la peine différente, et c'est ces expériences qu'on aimerait croiser ce soir. J'ai bien conscience que poser cette question du sens de la peine est déjà, pour certains, discutable, car il n'est pas certain que la peine ait un sens, du moins pas un autre sens que celui de répondre au mal qui a été commis par un mal imposé, un mal subi. Mais la nature ayant horreur du vide, la question devient alors qu'est-ce qu'on fait du temps de la peine? Le sens n'est plus alors préconçu, mais il s'élabore dans un face-à-face du détenu avec lui-même et aussi dans une rencontre entre des agents de l'État, d'une part, des personnes condamnées, de l'autre. Ce débat en prison autour de la peine est retransmis sur une radio de service public, et c'est pas par hasard, parce que il nous concerne tous. La peine est prononcée, rappelons-le, au nom du peuple français, c'est-à-dire en notre nom, à nous tous. Et ce débat va réunir deux détenus, Fabrice, détenu à la prison de Saint-Étienne, et qui est auxiliaire d'activité pour la vidéo, il nous expliquera en quoi ça consiste. Et Fabrice est là avec Benny, un autre détenu à la prison de Saint-Étienne, qui est également auxi, comme on dit, auxiliaire d'activité pour la vidéo. Et puis Edwige est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, CEPIP, et elle a travaillé 15 ans à ce titre-là en milieu fermé, c'est-à-dire en prison, en fait, c'est comme ça que ça se dit, et aujourd'hui elle est en milieu ouvert, c'est-à-dire pour des personnes sortant de prison ou qui sont confiées par la justice. Et puis enfin, Olivier est surveillant. Il a exercé en milieu fermé dans une prison pendant une dizaine d'années. Et puis, il a mis en place le bracelet électronique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est agent de surveillance électronique.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Alors, merci d'avoir répondu et merci d'être venu de vos services respectifs qui sont pas ceux de Saint-Étienne. Et puis, merci à Benny et à Fabrice de venir nous parler. Ma première question sera pour vous, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans le vécu de la prison? Qu'est-ce qui est le plus pénible?
Franchement, c'est l'arrivée. C'est les premiers jours, c'est quand on est aux arrivants, qu'on arrive, que soit la peine vient de tomber, soit la garde à vue vient de se finir, on est jugé ou pas. Et on n'a rien, en fait, on arrive, il y a rien, c'est petite promenade, aucune affaire, pas de nourriture en plus, pas de cantine, rien, c'est ça le moment le plus compliqué, je pense.
Et dans un milieu hostile qu'on connaît pas?
Ouais, aussi, il faut, comment dire, la première fois, il faut tout apprendre. Donc forcément, on est un peu perdu, on sait pas comment ça fonctionne, tout ça. Alors après, il y en a toujours quelques-uns qui expliquent, mais il y en a toujours aussi quelques-uns qui en profitent de l'autre côté.
Benny?
Ouais, c'est pareil, ouais, au début, c'est compliqué. Après, on s'habitue, on fait connaissance avec 2-3 personnes, on s'adapte, quoi, petit à petit.
Et les autres, c'est pas pénible de vivre 24 heures sur 24 avec des co-détenus qu'on n'a pas choisis, qui parfois parlent pas votre langue?
Comme vous disiez, on n'a pas le choix, donc on s'adapte, on fait en sorte de bien s'entendre. Si on ne s'entend pas, on peut changer de cellule, après,
oui,
c'est...
Oui.
On n'est pas obligé de rester avec une personne qu'on s'entend pas.
Ça vous est arrivé d'être avec quelqu'un qui parlait pas français?
Ouais, moi je suis resté 8 mois avec quelqu'un qui parlait pas français, un Albanais. Mais après voilà quoi.
Il n'y a pas de problème de communication.
Il n'y a pas de problème. Ouais, là, il n'y a pas de problème de communication. Hein. C'est sûr.
Bon, et donc il y a des codes, il y a une manière de vivre en prison, Fabrice. Il faut maîtriser les codes, ce qui n'est pas évident.
Ouais, bah quand on connaît pas, c'est pas forcément facile d'arriver. Après, on va dire un peu tristement, il y en a beaucoup qui rentrent et qui connaissent déjà les codes.
Oui.
Donc ça roule un peu tout seul. Et puis après, bah voilà, faut observer, s'adapter, faire en sorte que ça roule. Et faut pas non plus trop changer par rapport à ce qu'on est dans la vie, parce qu'en fait, c'est en fonction de qui on va être et de comment on va être que va se faire notre détention autour.
C'est ça, faut rester soi-même.
Ouais. Primaire ou secondaire aussi, quand c'est la première fois, bah voilà.
Ouais, puis il faut pas non plus laisser.
On connaît pas, on se demande où on va atterrir. Après, quand on est secondaire, c'est pas pareil. On connaît déjà les premières fois. On sait que voilà, faut être comme ça, comme ça. Après, faut pas se mélanger.
C'est même là que c'est dangereux, presque plus en fait. C'est quand on revient ou qu'on connaît. Ouais, on a plus tendance à s'adapter à la prison qu'à faire s'adapter la prison à nous. Et c'est là qu'on passe une mauvaise détention. Enfin, ou qu'elle tourne mal, quoi.
C'est ça. Rester soi-même, c'est difficile, Benny?
Non, faut rester soi-même. Moi, comme j'étais dehors, je suis dedans. Je respecte les gens me respectent. Quand on respecte, en retour, on a du respect. Que ce soit les surveillants ou les détenus, c'est pareil.
Alors, le respect, Olivier, je rappelle, vous êtes surveillant. Vous avez été surveillant, maintenant vous êtes agent de surveillance électronique. Le surveillant, comment...
Alors le surveillant en détention, il respecte un petit peu les règles. Donc la première chose, quand on rencontre un détenu pour la première fois, donc on essaie d'avoir un minimum de politesse pour avoir un bon échange. Donc quelquefois, il n'est pas évident de discuter avec les détenus, notamment comme Benny a dit, quand ils sont primaires. Donc on essaie de faire attention.
Débraquer leur...
Voilà, donc c'est un premier aspect.
Mais... Il y a plusieurs manières de faire appliquer le règlement, Olivier, j'imagine. On peut être très strict, ça peut être source de conflit, on peut être un peu plus, je dis pas coulant, mais s'accommoder de la discipline.
C'est-à-dire que nous, on a une ligne de conduite à tenir, qui est le règlement, mais quelquefois, pour qu'une détention se passe assez bien, il faut, comme on dit, soit être un petit peu soit à droite ou à gauche de cette ligne, tout en tenant compte... de ce que nous demandons de faire. Donc la particularité, moi j'ai travaillé en maison d'arrêt, donc il faut faire très attention à la sécurité.
C'est votre obsession?
C'est ce pourquoi on est engagé au départ. Donc on a une détention, on a une coursive à gérer. Quelquefois on peut avoir sur une coursive des détenus qui n'ont pas le droit de communiquer entre eux, donc ça il faut faire très attention à ne pas ouvrir une cellule et une deuxième pour certains échanges. Et c'est là la difficulté du métier. Tout à l'heure, Benny et Fabrice parlaient de la relation qu'il y a entre les détenus. Et je pense que dans une détention, quand on arrive, on est primaire, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir peur. La peur ne vient pas forcément du côté institutionnel, hein, du côté des surveillants. Quand on doit, par exemple, intervenir dans une cellule pour faire, par exemple, une fouille de cellule, les détenus savent pourquoi on est là. Mais la méfiance vient plus du côté des personnes qu'on ne connaît pas, avec qui on est obligé de vivre dans un endroit clos. Et c'est peut-être cela qu'il faut essayer de maîtriser.
C'est ça qui est le plus dur. Vous confirmez, Fabrice, vivre avec des gens qu'on n'a pas choisis, H24, comme on dit?
Ouais, bah c'est forcément pas évident. Hein. Enfin, moi, ça m'est jamais spécialement arrivé de me sentir, pas à l'aise avec un co-détenu ou autre. Mais ouais, il y a des fois où, bon, bah, la nuit, on dort et on jette un œil, quoi. Parce qu'on sait pas avec qui on est, on connaît pas les personnes. Et même si, il peut être très sympathique de premier abord.
Benny, les autres?
Non, moi ça va, ouais, avec les autres. Moi je suis tombé sur des bons co-détenus, donc je n'ai pas à me plaindre au niveau de ça. Je suis bien tombé.
Alors, Edwige, vous êtes CEPIP. Vous, CEPIP, c'est un métier de la parole. C'est un métier où on parle beaucoup. On essaie de nouer une relation avec les détenus, alors qu'ils sont détenus. C'est quand même un peu particulier comme relation, non?
Exactement. Le départ, c'est forcément la condamnation, en tout cas le mandat de dépôt, puisqu'on accompagne aussi des gens qui sont prévenus, qui sont présumés innocents et pas encore condamnés. Ça, c'est dans les murs de la prison. Et puis à l'extérieur, on suit aussi des personnes qui sont qui soit sortent de détention, soit qui ont été condamnés à des peines alternatives à l'incarcération. Et la relation de confiance, elle se construit un peu différemment en détention et à l'extérieur, parce qu'en détention, les personnes détenues ne sont pas obligées de nous solliciter pour nous voir. Nous, on a l'obligation de les rencontrer à l'arrivée, dans le cadre d'un entretien arrivant, pour leur donner des informations sur le plan d'exécution de leur peine. Et puis ensuite, elles nous écrivent si elles souhaitent qu'on les rencontre au cours de leur incarcération pour préparer la sortie.
Donc vous les voyez au début et à la fin ?
Alors non, parce que souvent les personnes détenues ont envie de sortir plus tôt et donc ont besoin de nous voir.
Ça peut se comprendre.
Tout à fait. Et donc la base pour créer la relation est plus simple. Pour moi, en tout cas en détention, et c'était ma vision des choses quand je travaillais en prison, c'est qu'à l'extérieur, c'est une obligation judiciaire de venir rencontrer le SPIP, alors qu'en détention, ils ne sont pas obligés. Et moi, j'ai toujours travaillé en établissement pour peine, donc en centre de détention ou en maison centrale,
pour les longues peines.
Donc, c'est des personnes qui étaient incarcérées pour plusieurs années. Et il fallait construire un projet qui était cohérent en fonction de la longueur de la peine. Et ça me permettait aussi, contrairement à certains de mes collègues qui exercent en maison d'arrêt, qui ont beaucoup de personnes en suivi, de prendre un peu plus le temps d'accompagner, d'écouter, d'échanger. Parfois, alors le CPIP en détention, il est en lien aussi avec la famille, puisque les téléphones, les cabines téléphoniques rentrent progressivement en détention.
Ici, on est en maison d'arrêt. Hein. Une maison d'arrêt, c'est-à-dire il y a à la fois des personnes sous un dépôt, et à la fois des petites peines, et puis à la fois des débuts de peines plus longues. Alors la question que j'ai envie de poser à Fabrice et à Benny, c'est votre perception des surveillants, de l'encadrement. C'est difficile de dire ça ici, mais Fabrice.
Ben, moi, c'est, on voit le problème d'entrée de jeu, en fait. C'est que la principale, moi, ça fait un petit moment que je suis dans cette maison d'arrêt maintenant. Et plus on reste longtemps, plus ça se passe bien. Parce que plus ça se passe bien, enfin, en tout cas, plus ils savent se positionner par rapport à nous. Parce que c'est vrai que quand on rentre, ils envoient des centaines passer dans l'année. Enfin, on voit les numéros d'écrou qui défilent. En un an, il y a presque 1000 personnes qui défilent. Ils peuvent pas retenir tout le monde. Et du coup, en fait, là où il y a vraiment un travail de surveillant plus que juste surveiller qui est fait, c'est quand on reste longtemps et en maison d'arrêt, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui arrive.
Béni, le contact avec les surveillants.
Ça va, ça se passe. Après, c'est vrai, au début, quand ils nous connaissent pas, c'est un petit peu froid. Mais même par exemple, le surveillant m'ouvre la porte, je dis bonjour. Il me dit pas bonjour. Bon, je dis, bon, c'est pas grave. Bon, pas obligé, voilà. Ben, le lendemain, quand je vais lui dire bonjour, je vais lui dire deux fois bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ben, une fois, deux fois, ben, la troisième fois, ben, le respect, il est là et tout se passe bien.
Il a compris qu'il faut
il
dire bonjour.
Il a compris, voilà. Je parle dans ce sens-là, mais vous comprenez d'accord. Ce que je veux dire. Alors, voici, quand on donne du respect, on a le respect en retour.
C'est ça, c'est une réciprocité, Olivier, le respect.
Oui, tout à fait. Quand on est surveillant d'étage, quand on arrive sur un étage qu'on ne connaît pas, donc le surveillant va essayer de prendre un petit peu le pouls de l'étage. Il faut savoir qu'en maison d'arrêt, comme sur un autre, dans notre établissement, comme les centres de détention ou bien les maisons centrales, le surveillant sur sa coursive est responsable de son étage. La relation se fait au fur et à mesure. Donc généralement, ce qui se passe quand on prend un étage, soit le matin ou bien l'après-midi, généralement on va commencer par faire le tour des cellules. Si c'est le matin, on vérifie lors de la première ronde de 7h du matin si tout le monde est présent et bien vivant. Généralement, le matin, on n'a pas trop le temps de discuter avec les détenus. L'après-midi, on aurait peut-être un petit peu plus le temps, mais le respect commence à l'ouverture de la cellule. On dit bonjour. Et très vite, on va se rendre compte qui va poser problème en détention et qui va passer une bonne détention.
C'est ça. Alors, on a la possibilité aussi, c'est votre cas tous les deux, et là, on est dans la bibliothèque, qui est votre lieu de travail, Fabrice. Vous travaillez, vous êtes auxi, ça veut dire auxiliaire. C'est un statut particulier dans la prison d'être auxi, parce qu'on travaille.
Exactement. Ouais, bah ça, c'est quelque chose que presque, en fait, tout le monde... demande à l'arrivée, mais bon, premièrement, il n'y a pas du travail pour tout le monde. Deuxièmement, faut tenir la route avant d'y arriver. Et c'est quand même un truc qui est très très différent, qui est quand même, bon, premièrement, le travail ici n'est pas désagréable.
C'est quoi votre travail toute la journée?
En gros, il y a une télé interne à la prison, donc on doit faire des petits montages pour informer les gens de ce qui se passe à l'intérieur de la détention. Plus, comme vous le disiez, on est dans la bibliothèque, tenir rangée, faire les prêts de livres, les retours, tout ça.
Faire le ménage aussi.
Pour la télé aussi, comme il y en a, ils ne parlent pas français, ou qui ne comprennent pas, on fait des vidéos pour qu'ils puissent comprendre.
Oui, c'est ça.
Avec des images.
C'est ça, de façon...
Tout le monde puisse avoir les infos de la prison.
C'est un instrument de communication pour tout le monde.
C'est ça.
Voilà. Ça nous a beaucoup changé la détention.
Ouais. Bah oui, parce que vous avez un travail, vous avez une occupation.
Bah déjà, 6 heures par jour, en fait, on est là. Donc ça change en soi, j'allais dire, pas grand-chose par rapport à des journées de boulot que peuvent avoir des gens dehors, si ce n'est que nous, le soir, on rentre en cellule, de rentrer chez nous. Mais oui, ça fait une activité, c'est plus, on subit plus le
c'est
temps,
pareil,
on le subit moins.
Quand on travaille. Mais en plus, moi, quand je suis rentré, je dirais que j'ai travaillé, donc j'ai ressenti la prison quand même.
C'est ça.
On ressent la prison. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, on dirait que on m'a mis à la bibliothèque grâce à Maspip, qui m'a fait.
C'est ça.
Qui a demandé, quoi, c'est bien.
Alors, grâce à Maspip, je me tourne vers Edwige, grâce à Maspip. C'est une condition finalement assez favorable de pouvoir travailler en prison, non?
Oui. Tous les établissements pénitentiaires, normalement, proposent des formations ou du travail, soit au service général, donc comme Benny et Fabrice en tant qu'auxiliaires, soit aux ateliers, puisqu'il y a des ateliers de production aussi dans les détentions. Ça passe dans des commissions qu'on appelle des CPU, de classement, donc de classement au travail. Et là, on discute de manière pluridisciplinaire avec des personnels de surveillance, la direction et le SPIP, sur les capacités de la personne à effectuer le travail, son comportement en détention. Et on décide de classer ou non les personnes. Certaines sont classées, mais sont classées sur liste d'attente, puisque vu le nombre de personnes incarcérées dans les établissements, tout le monde ne peut pas accéder à un emploi qui permet, notamment quand on n'a pas de proches qui aident financièrement, à non seulement s'occuper en détention, mais aussi à subvenir à ses besoins, puisque beaucoup de choses sont payantes en détention.
Oui, c'est ça. On peut cantiner. Vous nous expliquez, Fabrice, ce que c'est que la cantiner?
À la cantine, c'est on reçoit une feuille dans nos cellules. Alors, je sais qu'il y a des établissements où ça se fait plus comme ça, mais nous, c'est encore à la bonne vieille feuille. Et sur ces feuilles, il y a des listes de produits qu'on peut avoir. Alors, l'électroménager basique, plaque chauffante, ce genre de choses, de la nourriture et des produits d'hygiène. Pour ceux qui peuvent pas cantiner, les indigents, ils ont 30 euros par mois qui leur est donné pour justement pouvoir subvenir au minimum hygiène, etc. Et plus un petit kit qui leur est amené, je crois, tous les mois, pour se laver tout ça. Et sinon, effectivement, on peut, en gros, acheter de quoi un peu améliorer l'ordinaire, quoi. Ouais. Donc, ça passe surtout par de la nourriture, mais.
De travailler, qu'on a ce petit revenu en fin de mois, ça fait du bien de pas demander à l'extérieur de l'argent.
C'est ça. Plus autonome.
Voilà. On a notre argent. On n'a pas besoin de. Ça aussi, ça fait du bien au niveau personnel.
C'est-à-dire que même si, les payes, elles sont, je crois que ça doit être 20 ou 25%, un truc comme ça, du SMIC, on touche à peu près 300 euros, en gros. Ça nous permet, même si ça va prendre du temps, c'est pas ma femme dehors qui paye mes frais de justice et mes conneries, c'est moi qui le fais petit à petit depuis ici. C'est quand même très différent comme manière d'aborder le problème, on va dire.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
J'ai pris du temps pour mon métier. J'ai pris du temps pour mes chansons. Ce qui allait pas, j'ai pris du temps pour le changer. J'ai pris du temps, ça prend du temps d'essayer. C'est tellement rare quand ça marche. C'est tellement rare que quand ça marche, faudra battre le fer tant qu'il est chaud. Le fer tant qu'il est chaud. Parce que l'enfer, c'est pas d'échouer, c'est de pas tout faire pour essayer. Alors j'ai tout fait. Jusqu'à étouffer. Ah ouais, j'ai tout fait là. J'aimerais souffler.
Je me souviens de ce rendez-vous pris. La promesse d'une pause, d'un répit. Du repos pour mon esprit. Comme une bulle au milieu du bruit. Au milieu de la furie. Mais quelque part un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche. Une feuille blanche.
Et là, au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps. Et là,
elle a,
au milieu du monde,
elle a,
allongé les secondes,
elle a,
on a pris le temps.
Rencard chez le docteur, chez le coiffeur, chez le veto. Hier j'ai éteint très tard, aujourd'hui je me suis levé tôt. J'ai pris ma douche, j'ai pris la mouche, j'ai pris la route, mes affaires. J'ai pris le train, le taxi, j'ai trop pris, j'ai pris cher. J'ai pris mon fils par la main pour sa fêter son tournoi. J'ai pris le courage à deux mains, le mal de tête c'est pour moi. J'ai pris mes doutes enfouis sous les t-shirts dans ma valise. J'ai pris le tourbus dans une ambiance que souvent j'idéalise. J'ai pris du retard dans ma journée, dans mon planning, dans mon sommeil. J'ai pris de l'avance sur la fatigue, mais pas vraiment sur le réveil. J'ai pris une allure, une cadence, un rythme entêtant, mais c'est vrai. J'ai pas pris le temps depuis longtemps.
Je me souviens de ce rendez-vous pris, la promesse d'une pause, d'un répit, du repos pour mon esprit, comme une bulle au milieu du bruit, au milieu de la furie. Mais quelque part un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche, une feuille blanche.
Je suis là, au milieu du monde, pour que la vie réponde. On a pris le temps, et là, au milieu du monde, et là, allongé les secondes, et là, on a pris le temps.
Esprit de justice qui continue cette discussion en prison avec des détenus, un surveillant et une conseillère d'insertion et de probation sur le sens de la peine. On a commencé par parler du vécu de la peine en présence de Fabrice et de Benny, détenus, et de Olivier, surveillant, et d'Edwige, conseillère CEPIP, on va le dire maintenant, qui ont choisi de nous faire entendre « On a pris le temps » de Grand Corps Malade. Un mot sur ce choix, Edwige.
C'est une chanson que j'aime beaucoup, qui est en fait interprétée par Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye, qui ont tous les trois des trajectoires de résilience aussi. Et cette chanson, en tant que citoyenne, elle me plaît parce que prendre le temps, c'est quelque chose qu'on fait moins dans notre société. Et en matière d'accompagner des personnes vers leur réinsertion sociale, ça a aussi du sens, puisque ça prend du temps de changer de mode de vie, de se réinsérer. Parfois, on parle de page blanche dans cette chanson. Et parfois, il faut un peu brasser le passé, mais aussi aller au-delà et essayer d'évoluer positivement et de redevenir un citoyen dans la société.
Alors, brasser le passé, Fabrice ou Benny, brasser le passé et avoir du temps, ce serait une définition de la prison, ça vous parle ?
Ouais, complètement. Après, je crois que Benny et moi, comme moi, on n'en est plus à brasser le passé, justement. Et c'est ça qui fait que, pareil, c'est une détention, elle se passe bien ou elle se passe mal.
C'est-à-dire, alors comment vous avez fait pour dépasser le passé ?
C'est, comme je vous disais, c'est un peu particulier parce que moi j'ai fait un an de mandat de dépôt au moment où les faits ont été commis. Je suis sorti, je suis resté 6 ans sous contrôle judiciaire, donc j'ai eu amplement le temps de brasser le passé.
Oui.
Et en fait, une fois ma condamnation arrivée, c'est le moment où je me suis dit « Ah, t'es condamné, ta peine va te servir à réfléchir à ce que t'as fait » parce que c'était déjà fait depuis longtemps. Mmh. Mais ok, ça y est, tu peux avancer. Maintenant, tu peux faire quelque chose. Et quand on est dans cette dynamique de... il faut se servir de la prison pour faire quelque chose. C'est une autre manière de vivre la prison que quand on est... le pire du pire, c'est vraiment le mandat de dépôt. On est en attente de savoir combien de temps on va passer ici et on peut absolument rien mettre en place. Mais même condamné, des fois, on se dit 6 mois, 8 mois, même 2 ans, c'est une parenthèse, je vais rien avoir le temps d'en faire, si ce n'est perdre du temps.
Mais paradoxalement, quand on a une peine plus longue, on se dit je peux en faire quelque chose.
Ah oui, ça laisse le temps de construire quelque chose. C'est d'ailleurs à peu près le seul intérêt de la peine plus longue, on va dire.
Et construire quelque chose, ça veut dire quoi concrètement, ça veut dire...
Déjà avoir le temps d'accéder au travail, comme par exemple ici, ou même reprendre des études. Pareil, tous les deux, on est en Italie, on essaie de passer des petits diplômes.
C'est pas une grosse peine que j'ai pris, moi, c'est une petite peine après par rapport.
Mais tu vois, ça t'a laissé le temps,
Bien sûr.
Bosser l'italien et... moi, c'est pareil, je me suis relancé sur des études, je me suis remis, comme je disais, à écrire un peu, ce qui est quelque chose que j'ai découvert en prison, en fait.
L'écriture.
Ouais.
Et le monde du travail aussi, parce que moi, je travaillais pas, dehors, je travaillais pas.
Et c'est en prison que vous avez appris à travailler.
Le monde du travail, à être une vicariée, quoi.
Une vicariée, se lever le matin,
travailler, manger, travailler, dormir.
Voilà.
C'est un rythme de vie.
Oui,
c'est la prison qui m'a...
Et bien, vous avez l'impression que ça vous a servi à quelque chose, que ça sert à quelque chose.
Ça sert au niveau des gens, au niveau personnel, au niveau pour soi-même, déjà se connaître mieux. Quand on est enfermé, on arrive mieux à se comprendre, le fait d'être tout seul. Après aussi, on fait des programmes, il y a des programmes ressources, il y a des programmes pour les trucs qu'on a fait, quoi. Il y a des médecins, il y a les psys.
Et vous avez l'impression c'est d'avoir été entouré en
ouais, prison. Ben, moi, personnellement, depuis que je suis rentré, peut-être j'ai de la chance, je sais pas. Hein. Moi, j'ai de la chance. Je suis rentré, ma mère, elle est morte peu de temps après. Mais pour moi, personnellement, ça m'a préservé. Parce que j'étais en prison, j'ai pas vu ça. Et après, même ici, en détention, ça s'est bien passé. Ma SPIP, quelqu'un, voilà, quoi, direct, elle m'a fait travailler, elle a demandé. Alors que moi, c'est vrai qu'il y a des gens, ils étaient en attente. J'aurais pu être en attente, moi aussi. Ben, grâce à ma SPIP, j'ai travaillé à la bibliothèque. Parce qu'elle a compris mon histoire, quoi. Le décès de ma mère, je venais d'arriver. Et c'est pour ça, malgré tout, ils ne te laissent pas crever, quoi.
Ouais. Et alors, ça, c'est vraiment le travail.
Après, il y a ceux qui se plaignent tout le temps, mais moi, oui, je les aime pas trop, ceux
qui
se plaignent.
C'est ça, oui, il y en a qui se plaignent tout le temps.
Il y en a toujours qui se plaignent, mais moi, j'aime pas ceux qui se plaignent.
Oui, oui. Alors, Edwige, c'est un parcours qui est plutôt positif.
Tout à fait. Et il y en a plein, en fait. Oui. Et même si parfois, il y a des embûches dans le parcours d'exécution de peine, hein, je pense notamment aux jeunes majeurs que j'ai pu accompagner, qui ont souvent des problématiques addictives avec le cannabis ou des problèmes de gestion de la frustration, qui est majoré hein, en détention parce qu'on est complètement infantilisé et on n'est plus maître de rien. Ben, c'est pas pour ça que ces petits jeunes n'ont pas évolué non plus, même si parfois il y a eu des incidents, etc. Nous, c'est vrai qu'au niveau du SPIP, la chance qu'on a, c'est qu'on... Quand on le peut, en tout cas, c'est d'entendre la parole des personnes qui sont condamnées. Hein. Voilà, on n'est pas là pour les juger, on est là pour essayer de les accompagner à avancer et à mettre en valeur leur parcours aux yeux de la détention qui parfois les voit différemment parce que quelqu'un qui a un bon comportement avec sa CPIP peut avoir un mauvais comportement avec un personnel de surveillance. Et puis de montrer un autre visage aussi au juge de l'application des peines qui va décider de leur avenir et qui ne les voit souvent qu'une fois au cours de leur peine en débat contradictoire pour examiner un aménagement de peine.
C'est ça. Olivier, vous sentez, vous en tant que surveillant, vous sentez cette différence de relation avec la CPIP et le surveillant? C'est pas le même registre, c'est pas le même contact?
Non, pas du tout. Maintenant, je travaille en tant qu'agent de surveillance électronique.
Alors, c'est quoi? C'est quoi comme fonction?
Alors, le travail du surveillant en milieu ouvert, parce que je travaille au service pénitentiaire d'insertion et probation, c'est d'installer des bracelets à domicile. Par rapport au milieu fermé, le contact qu'on va avoir avec le détenu va être totalement différent. Il faut savoir que l'agent de surveillance électronique va être le seul agent qui va avoir obligation à se déplacer au domicile pour installer un matériel électronique. Et du coup, nous, on est un petit peu obligés de s'adapter à l'environnement. Quand on est à l'extérieur, en milieu ouvert, la relation, et je ne dis pas qu'elle est décomplexée, mais on va rencontrer forcément d'autres personnes. Les autres personnes, généralement, c'est la famille. Ça peut être les enfants, l'épouse. C'est toute cette dimension qu'il faut prendre en compte.
Voilà. Et c'est donc l'occasion d'échange. Vous ne faites pas que de la mise en place d'un boîtier électronique. C'est aussi des contacts.
Ce sont des relations qui sont quand même asymétriques, mais on est surtout dans l'accompagnement. Il faut savoir que la détention à domicile sur surveillance électronique, ça fait partie de la réinsertion et de l'amélioration du détenu. Tout ce qui peut avoir comme contrainte en milieu fermé, avec le bracelet électronique, les contraintes sont un peu moins prégnantes.
Oui, et puis,
même si elles existent toujours.
Et puis il y a des incidents, j'imagine, parfois, non?
Il peut y avoir des incidents, mais c'est très à la marge.
Ah oui.
Donc on a vraiment de très bons contacts avec les personnes condamnées qu'on accueille chez nous. Il n'y a plus ce rapport surveillant-surveillé, comme Fabrice disait tout à l'heure. On est peut-être moins reconnu en tant que surveillant, mais comme agent et faisant partie d'un milieu ouvert.
C'est ça, c'est ça. Vous avez dit, Fabrice, que vous écriviez. C'est intéressant, on est sur France Culture, nous, à France Culture, les livres, ça nous intéresse, ça nous parle, je pense, comme à nos auditeurs. Et j'aimerais bien que vous développiez un peu. Ça a été important pour vous en sortir, de pouvoir écrire.
Ce qui est important, c'est de s'occuper, en fait. Peu importe la manière, moi, ça a été l'écriture, mais il faut trouver quelque chose. Alors, au début, j'écrivais pas. C'était la lecture, et puis en fait, de venir. Il y a la bibliothèque ici à l'époque, je me suis rendu compte que, ouais, il y avait des recueils de nouvelles, qu'une nouvelle, c'est pas long, qu'écrire un truc pas long, c'est quand même plus facile, et de là, c'est venu, et etc., ça a mis quelque chose en place. Après, il y en a, ça va être autre chose. Hein. Il y en a qui essaient de, enfin voilà, il y en a qui bossent sur leur album, ils essaient de faire du rap. Il y en a qui dessinent des mangas, qui a commencé à dessiner depuis qu'il est ici, qui maintenant est parti dans une autre détention à Rouen. Mais voilà, ce qui est important, c'est de s'occuper, parce que en fait, en vrai, on le voit, si on veut pas revenir, faut se trouver quelque chose autre que la prison. Enfin, ceux qui reviennent, c'est ceux qui prennent trop l'habitude et pour qui la vie, c'est ça. Des fois aussi, puisque la vie, elle n'est pas forcément très différente dehors, mais ça,
c'est encore un autre problème.
Ouais.
Et Benny, vous, c'est le rap.
Ouais, un petit peu. J'écris des chansons.
Vous écrivez des chansons.
Un petit peu de chansons de rap.
Et vous écrivez depuis que vous êtes en prison ou vous écriviez
non,
aussi
moi, j'écris,
avant
j'écris depuis... Ça fait longtemps, ça fait un moment. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Là, j'en ai 37. Donc ça fait... C'est beaucoup. Ça fait un moment.
Et l'écriture, pour vous, ça a été le rap, ça a été une manière d'exprimer, de dire des choses que vous n'arriviez pas à dire.
Non, moi, c'était quand ça a commencé, quand j'étais petit. J'aimais bien. Au début, c'était dur. Au début, j'essayais, quoi. J'ai des petites. Ça commençait une phrase, après deux. Et maintenant, après, c'est plus facile. Plus on écrit, plus c'est facile. Et en prison, là, j'écris, en fait, pour passer le temps, pour. Il y a d'autres trucs à raconter aussi, quand on est en prison. Donc voilà, on écrit.
Edwige, cette activité d'écriture, c'est déjà une prise à distance de soi, c'est déjà une manière de réfléchir. Alors, je ne parle pas du passé ni des faits, mais c'est d'être en communication, on pourrait dire, de manière un peu pompeuse avec le monde.
Oui, tout à fait. J'aime bien essayer, quand je reçois quelqu'un en entretien, de savoir un peu ce qu'il aime faire, justement, en termes de loisirs. Ça peut être le dessin, comme disait Fabrice, ou pour que ce soit un vecteur de communication entre la personne et moi, plus simple. Et puis, pour moi, c'est important aussi de travailler autre chose que le rapport aux faits, les obligations, et de travailler tout ce qui est la partie émotionnelle aussi de la peine et de ce que la personne vit. Et bien, à travers un média comme l'écriture, la lecture, et essayer de partager ça avec une personne, c'est hyper enrichissant et ça permet de la voir sous un autre angle aussi.
Vous réabordez les faits, Edwige, avec les détenus, toujours ?
Oui, ça fait partie de notre mission de prévention de la récidive. C'est d'essayer de comprendre les ressorts du passage à l'acte et donc de travailler autour de ce qui a conduit à la condamnation.
Fabrice, vous avez dit que vous, ce temps-là, vous l'avez eu pendant les 6 ans de mise en liberté. Hein, vous n'étiez pas encore jugé. Est-ce que, finalement, par l'écriture, vous arrivez à dire des choses qu'on ne peut pas dire dans un dossier judiciaire, qu'on ne peut pas dire dans un procès ? Le procès, c'est quand même un lieu assez particulier. Je pense au rapport aux faits et rapport aux victimes.
Non, moi, j'ai absolument rien fait là-dessus. Parce qu'en fait, comme je disais, il ne faut pas ruminer, en fait. C'est... Oui. Justement, il y a eu un travail pour savoir comment était venu le passage à l'acte. Et une fois que ce travail était fait et que j'ai su ce qui m'y avait conduit là, ben j'ai coupé ça et j'ai pas envie de le réexprimer d'une autre manière. Au contraire, l'écriture, j'écris. Tout le monde me le demande souvent quand on veut écrire. C'est, t'écris ce qui se passe ici, surtout pas. Il faut sortir la tête de ça.
Et donc vous écrivez des fictions.
Ouais. C'est un peu tout et n'importe quoi. Là, en plus, il y a des concours de nouvelles qui sont organisés par le SPIP ou par des gens des associations de lecture. Donc voilà, on participe à ça. Avec SOS Méditerranée, sur les migrants, puis machin sur les cadeaux. On va voir ce que ça donne.
Et vous aimeriez être publié un jour
Ah bah oui, si on peut. Hein. Il y a des éditeurs qui écoutent. Hein. On est là. Je bouge pas.
C'est ça. Et c'est-à-dire que le rôle du CEPIP, le rôle des accompagnants, c'est de, bien sûr, de reparler du passé. Mais une fois qu'on a parlé, comme dit Fabrice, on a parlé, ça y est, c'est fait, c'est élaboré. Après, il faut préparer l'avenir, il faut construire l'avenir. Ça, c'est vraiment le cœur de votre métier.
Tout à fait. C'est le cœur de notre métier, avec la difficulté en détention, d'avoir un travail d'orientation aussi auprès des bons partenaires. Selon les détentions, il y a plus ou moins de partenariats et ça complexifie notre tâche parce que, en tant que CEPIP, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas trouver un travail à une personne détenue ou une formation. Dans l'établissement où moi j'ai travaillé, il y avait la mission locale jeune pour les moins de 26 ans, France Travail, des associations comme le GREP qui permettaient de préparer des projets de sortie. Après, on a de gros besoins aussi en termes d'hébergement parce que comme toutes les personnes à l'extérieur, c'est difficile de trouver des logements, et encore plus quand on est détenu et qu'on sort de détention. Et puis au niveau du soin aussi, c'est très difficile, puisqu'on a des personnes qui sont carencées, soit au niveau somatique, soit au niveau psychique ou addictologique. Et les structures à l'extérieur sont difficiles à trouver parce qu'elles sont saturées, parce qu'il manque de soignants. Et ça, ça fait aussi partie de la réinsertion, et c'est des données à prendre en charge.
Alors, ça veut dire que vous préparez la sortie, Béni, c'est l'objectif numéro un. On pense qu'à ça quand on est en détention, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que la sortie à régler?
Non, moi je pense même pas à la sortie. La sortie, elle viendra quand ça viendra. Après, c'est vrai, on a envie de sortir, c'est normal, hein, comme tout le monde. Mais moi, je pense pas à l'extérieur, en vrai. Ah, je pense à l'intérieur, je pense à m'occuper, à mon travail, et j'essaye d'oublier l'extérieur, comme les personnes de l'extérieur aussi. Je veux pas avoir de...
Pour rompre, pour couper.
Pour je coupe, ouais, tout lien avec l'extérieur, comme ça je fais ma petite peine à l'intérieur. Je reste dans mon monde, et quand je sortirai, je m'occuperai de mon monde à l'extérieur.
Mais pour vous, Olivier, votre travail, c'est précisément de faire la transition entre l'intérieur et l'extérieur.
Oui, c'est exactement ça. Notre métier, c'est d'installer du matériel à domicile. Donc, il faut savoir que le bracelet électronique comporte quand même des contraintes. La première contrainte, c'est de porter ce bracelet. Il ne faut pas croire non plus que le bracelet électronique, c'est un cadeau qu'on fait à la personne qui va sortir de prison. Justement, parce que la personne qui va porter ce bracelet va avoir des contraintes de temps.
D'horaires à respecter aussi.
Des horaires à respecter, des contraintes également spatiales.
Et ben pas dépasser un certain périmètre.
Voilà, c'est ça. Donc nous, on est là pour mettre en place ce dispositif. On rencontre les parents, on rencontre les frères et sœurs, on est dans un...
Qui se font un peu
dans un nouveau lieu,
qui se font un petit peu les relais de la peine. Il faut que ça soit un projet collectif, quoi, si je puis m'exprimer ainsi.
Oui, on se rend compte quand même que la famille est très importante dans ce passage de. On est toujours dans ce moment de l'amélioration du condamné. Voilà, c'est pour un retour dans la société. Donc c'est.
C'est une transition.
C'est une transition qui est assez importante.
Et vous Fabrice, vous pensez à la sortie?
Moi, c'est un peu lointain, mais forcément, oui, on y pense, parce que je suis déjà sorti une fois, donc je vais dire entre guillemets, je sais comment faire. Je suis conseiller sortie, moi, ici, pour les autres détenus. C'est, je leur dis, tiens, fais tel papier, fais machin, demande ça, fais ci, fais ça, prévois ça dehors, parce que c'est important, en fait. C'est, voilà, sors pas à l'arrache, quoi. Enfin, c'est, vaut mieux sortir bien. Moi, c'est comme justement, c'est dans longtemps, sans doute, beaucoup de choses auront changé. Peut-être que j'habiterai plus au même endroit, peut-être que, voilà, je ferai plus le même métier. Enfin, on verra bien. Donc, c'est, mais il faut y penser, ouais. Il faut savoir comment sortir bien. Vaut mieux sortir un peu plus tard et correctement que sortir vite et n'importe comment.
Mais il faut, pour ça, il faut garder un lien avec l'extérieur, Fabrice.
Ouais, bien sûr. Bah, après, c'est là que, on va dire, les proches rentrent en compte, hein. C'est que le tri se fait, hein. Bah, moi, ça a été ça, hein, parce que, voilà, tous mes copains d'avant ma première peine, j'en connais plus aucun, sauf un. Qui est du coup maintenant je suis marié avec sa sœur, donc bon, oui. C'est pour ça qu'on se connaît encore. Mais voilà, là il y a les, on va dire le, on voit qui nous soutient et on voit à quel point ce soutien c'est important. Et souvent c'est voilà, c'est ce qui nous remet dehors, quoi.
Vous disiez j'oublie l'extérieur, mais il y a quand même le frère et la sœur.
Quand même, moi, ouais. Ouais, j'oublie l'extérieur, mais heureusement qu'il y a mon frère et ma sœur aussi. Parce que la famille, c'est important.
Bien sûr. Vous constatez, Edwige, cette importance de la famille. Vous parliez aussi de l'importance, quoi, de la sortie, préparer une sortie. C'est un moment très délicat, dans le fond, la sortie.
Tout à fait. Alors, toutes les sorties, parce que moi, en ayant travaillé en établissement pour peine avec des personnes qui étaient là pour longtemps, c'est vrai que souvent, et parfois, ça faisait peur à certains, notamment ceux qui étaient isolés, hein, socialement, c'était de passer par des permissions de sortir. Parce que
c'est pire que tout.
C'est effrayant. Et ben puis, oui. Les premières permissions, souvent, quand elles sont octroyées, surtout après un certain nombre d'années de détention, c'est que quelques heures. Donc, les personnes, elles ont l'œil sur la montre. Elles sont... tous les sens sont modifiés quand on est en prison, même pour quelques mois. Le champ visuel est réduit, la voûte plantaire...
C'est-à-dire le champ visuel ?
En fait, les personnes, comme elles sont enfermées dans des cellules, des petites cellules, que les cours de promenade sont entourées de murs d'enceinte, il y a eu des études qui ont été faites et en fait, plusieurs choses corporelles et dans les sens sont modifiées durant une peine de prison.
Et ça vient assez rapidement ?
Ça vient assez rapidement. Moi, j'ai eu des personnes qui sont sorties en permission, par exemple, et qui me racontaient, mais je suis restée une heure devant la porte de l'immeuble parce que j'attendais que le surveillant m'ouvre, parce qu'on n'a plus l'habitude d'ouvrir une poignée de porte. Et ce sont des choses que nous, citoyens libres, on ne perçoit pas, même quand on travaille en prison. Et c'est des automatismes qu'il faut réapprendre. Et en ça, rien que dans ces petits éléments, en fait, on se rend compte que la sortie, ça peut être d'une grande violence. Et le moment avant l'aménagement de peine ou avant la sortie en fin de peine, ça peut être un moment assez crucial dans la vie d'une personne détenue, notamment en termes de risque suicidaire. Et tous les personnels...
Ah oui, au moment de sortir.
Ouais, tous les personnels, on essaie d'être vigilants à ça. Parce que ça peut être un moment qui suscite beaucoup d'angoisse et d'inquiétude. Parce que aussi, quand on est détenu, souvent, l'extérieur est idéalisé et que les permissions ne se passent pas toujours très bien ou que le projet qui était initialement préparé, ben, parfois, il y a des embûches et des choses qui ne se passent pas comme ça aurait dû être. Et c'est vrai que c'est très angoissant et nous, il faut qu'on y soit vigilants.
Vous confirmez, Olivier ?
Oui, oui, oui. J'ai eu l'expérience avec une personne qui sortait de maison centrale pour laquelle on a mis un bracelet électronique. Donc la famille... est très contente d'accueillir le frère à la maison. Et puis, mais au bout de quelques mois, ils se rendent compte que la cohabitation est difficile, notamment parce qu'on ne connaît, malheureusement, on ne connaît plus son frère. Quand il s'est passé 10 ans, on n'est plus dans la même société. Le rapport entre le frère et sœur, et bon, ça part...
On s'est déshabitués les uns des autres.
C'est ça.
Et là, votre rôle est particulièrement important.
Oui, je me rappelle la première fois qu'on a fait un placement d'une personne qui est sortie de centrale. On s'y est repris à 3 fois pour faire le paramétrage du logement. La personne n'avait plus de souffle, rien que pour marcher, pour délimiter physiquement le lieu, l'endroit où est-ce que la personne a le droit de déambuler pendant les sorties autorisées. Quoi.
France Culture. Esprit de justice, Antoine Garapon.
L'encre coule, le sang se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir, qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, rire, sourire, certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit à plus, jamais je ne l'ai revu. Tenter le diable pour sortir de la galère, t'as gagné ferme, mais c'est toujours la misère. Pour ceux qui poussent derrière, pousser au milieu d'un champ de béton, grandir dans un parking et voir les grands faire rentrer les ronds. La pauvreté ça fait gamberger, en 2 temps 3 mouvements, on coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on vend, tour de bras, on fait rentrer l'argent, crac, ouais c'est ça la vie. Et parle pas de RMI, ici, le rêve des jeunes c'est la Golf GTI. Sur Vettakini, tomber les femmes à l'aise comme Manny. Sur Scarface, je suis comme tout le monde, je délire bien, Dieu merci j'ai grandi. Je suis plus malin, lui il crève à la fin, justifie les moyens. 4, 5 ou malsain, on tient jusqu'à demain, après on verra bien. On marche dans l'ombre du malin, du soir au matin, tapis dans un coin, couteau à la main. Bandit de grand chemin, y'en a pas deux pour être un dieu. Frappé comme une enclume, pas tomber les yeux, l'envieux toujours en veut. Une route pour y entrer, 2%. S'en sortir, trois quarts cuir, réussir, s'évanouir, devenir un souvenir, être si jeune, en avoir plein le répertoire, des guerriers de la carte qu'on efface comme un tableau du bas, c'est le noir, croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs, vont dans le même sens, veulent s'en mettre plein les tiroirs, on y passe notre vie, on y finit, avant de connaître l'enfer, sur terre on construit son paradis, fiction, des illusions trop fortes, sort le chichon, la réalité tape trop dur, besoin d'évasion, évasion, effort d'imagination, ici tout est gris, les murs, les esprits, à la nuit, on veut s'échapper de la prison. Une aiguille passe, on passe à l'action. Fausse diversion, un jour tu pètes les plombs. Certains chanceux en ont dans la cervelle, d'autres se les envoient. Pour une poignée de bif, ton guerre fraternelle. Les armes poussent comme la mauvaise herbe.
l'image du gangster se propage comme la gangrène. T'aimes ces graines, 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 graines de délinquants. Qu'espériez-vous tout jeune, on leur apprend que rien ne fait un homme à part le franc. Du franc tireur discret, au groupe organisé, la racine devient champ. Trop grand, impossible à arrêter, arrêter. Poisseux au départ, chanceux à la sortie, on prend 3 mois le bruit court. La réputation grandit, les barreaux font plus peur. C'est la routine, vulgaire épine, finesse, esquisse à l'encre de Chine. Figurine qui parfois s'anime, s'anime, animée d'une furieuse envie de monnaie. Le noir tombé, qu'importe le temps qu'il fait, on jette le dé, faut flamber. Perdre et gagner, rentrer avec quelques papiers, en plus ça aidera. Personne demandera d'où ils sont tombés, tombés, ou pas pour tout, pour rien, on prend le risque. Pas grave cousin, de toute façon dans les deux cas on s'en sort bien.
Esprit de justice qui continue de réfléchir sur la prison avec ceux qui la subissent et ceux qui l'administrent, et avec un surveillant, Olivier, une conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, Edwige, et puis deux détenus, Fabrice et Benny. Fabrice et Benny qui ont choisi de nous faire entendre cette chanson « Demain, c'est loin » par IAM. « Demain, c'est loin », on comprend un peu mieux le sens de ce choix, Fabrice.
Ah bah oui, oui, parce qu'ici, à chaque fois qu'on se réveille, en fait, on a 24 heures à occuper jusqu'au prochain réveil, et en fait, 24 heures, quand dans la vie standard, on n'en a pas assez pour faire tout ce qu'on veut, alors qu'ici, c'est presque chaque minute qu'il faut combler, quoi.
On a beaucoup de temps en prison.
Ouais, on en a beaucoup trop.
Beaucoup
trop. On pense pas demain, parce que demain, c'est loin.
Exactement.
Donc, il faut penser au présent.
Au moment, ouais.
Au moment.
Il faut s'occuper minute après minute, demi-heure après demi-heure, presque.
C'est... Pour son bien-être intérieur, c'est mieux. Hein.
Ouais. Son bien-être intérieur, c'est-à-dire pour...
Être bien dans la tête, pas cogiter. C'est pas bien de trop penser à demain.
Alors, il y a des personnes dont on n'a pas tellement parlé, mais moi j'en entends beaucoup parler dans ce que je dis sur la prison, c'est les autres. Les autres, là, on discute aussi en prison, on se parle, on a des vrais copains ou toutes les relations sont un peu particulières?
Non, une bonne relation. Quand on s'entend bien avec les gens, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Mais après, il ne faut pas se mélanger. Il y a des personnes où on ne faut pas se mélanger, parce que voilà.
C'est-à-dire?
Pas se mélanger, tout simplement. On peut aller voir là-bas, là-bas. Lui, il va faire des affaires là-bas, il va faire des affaires là-bas, il va faire des affaires là-bas. Et après, il s'étonne qu'il lui arrive des histoires.
Ah oui.
Parce qu'il se mélange. Il faut rester dans son monde. Moi, c'est pour vous dire, c'est l'Albanais. Moi, quand je suis arrivé, pourtant, il ne parle pas français. Oui. Mais c'était lui qui m'a averti. Il m'a dit, va pas là-bas, fais pas ça. T'as vu, viens ou pas?
Ah oui.
Va pas dans l'angle là-bas, parce que quand c'est là-bas, c'est qu'il y a des progestions. Ben, il m'a averti. Ben, j'ai écouté ses conseils. Et c'est vrai, hein, il avait raison.
Donc vous avez réussi à communiquer, et à bien communiquer.
À bien communiquer, des bons conseils à me donner à l'Albanais.
Voilà. Et sans parler la même langue.
Sans parler la même langue.
Pas se mélanger, ça vous parle, Fabrice?
Ouais, non, moi après, je pense qu'on peut de toute façon parler avec tout le monde. Après, il faut poser la limite, quoi. C'est, ouais, il n'y a pas de souci, on peut discuter, on peut bien s'entendre. Après, voilà, tu fais tes trucs, je fais mes trucs, on sépare nos vies, quoi. Ce qui fait le tri après, souvent, de toute façon, en plus, c'est la sortie. C'est pas compliqué, les gens avec qui on s'entend vraiment bien ici, quand ils sortent, on garde contact. Moi, il y a des gens qui sont sortis depuis, quelqu'un qui a pris une peine de 8 mois, qui en a fait 4, donc je suis resté en soi que 4 mois en détention avec lui, donc quoi, 2 mois dans la même cellule. Et en fait, maintenant, il m'écrit encore des courriers. Alors que on sait qu'on va pas se revoir demain. Mais avec cette personne, ça s'est bien passé. Et souvent, c'est ça qui fait qu'on sait, parce qu'on fait plein de relations. Enfin, la relation, elle est forcément un peu superficielle ici, parce qu'elle est... même si on est honnête, elle est biaisée par le milieu, en fait. Et c'est que dehors qu'on peut se rendre compte si vraiment on s'entend vraiment bien ou pas.
Vous confirmez, Edwige, que les relations ici, elles sont souvent un peu artificielles en raison de ce milieu pénitentiaire.
Tout à fait. Elles le sont entre les personnes incarcérées et aussi avec les professionnels. Hein. C'est ce que je disais au début. Forcément, il y a des intérêts en jeu, ce qui n'empêche pas une rencontre, une vraie rencontre sincère. Après, nous, la difficulté quand on intervient en détention, c'est que c'est un milieu clos avec des personnes qui sont condamnées. Le risque, c'est effectivement de préparer une sortie efficiente en mettant en place tout ce qui permet de prévenir la récidive, tout en laissant des gens incarcérés au même endroit dans des petits... cubes, qui ont commis des délits et qui pourraient s'influencer pour en commettre d'autres à la sortie, ou en détention d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est difficile, moi, quand j'accompagnais des gens en détention, la frontière entre se faire respecter ou se faire utiliser, c'est forcément, le visage qu'on montre n'est pas le même, tout taché. Béni disait tout à l'heure, je reste pareil à l'intérieur et à l'extérieur. Mais parfois, il y a quand même aussi un jeu pour pas perdre la face en détention et pas être utilisé ou pas subir des violences, parce que c'est une réalité aussi.
C'est une réalité, les violences, Fabrice ?
Oh bah oui, hein, ça se tape, hein, c'est comme ça, c'est fait partie. Parce que tout le monde est tellement, à cran à cause de l'endroit, du milieu, parce que bon, on vit quand même effectivement dans des cellules qui sont petites, on sort dans des promenades qui sont pleines d'ordures et voilà, et on peut pas, on est enfermé, à deux, parfois trois, parfois même quatre dans les doublettes avec d'autres gens avec qui on s'entend plus ou moins bien, en étendue. Donc le moindre truc fait que ça peut partir, et en plus. C'est un secret pour personne, c'est un peu la loi du plus fort. Donc en fait, si quelqu'un dit quelque chose de travers et qu'il n'y a pas de réaction, on va dire « Ah bah lui, on peut lui marcher sur les pieds », donc il faut toujours surréagir sans arrêt.
Il n'y a pas que ça, ça rentre dans une logique,
il faut arriver à la détourner, cette logique.
C'est pas parce qu'on est gentil qu'on se fait marcher dessus, hein.
Non, mais faut justement, c'est là que c'est extrêmement dur de mettre le pas entre la gentillesse.
Mais il faut se faire respecter quand même.
Il faut se faire respecter, bien sûr, c'est normal. Mais on n'est pas obligé de montrer, de prouver quelque chose. On est en prison, on est tous au même niveau.
Donc, et vous ressentez pas ce rapport de force quand même?
Non, moi je passais au-dessus. Moi, j'avais pas besoin de prouver ou quelqu'un il a quelque chose à me prouver. Je le remarque direct. S'il y a quelque chose à me prouver, je vais pas parler avec lui. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bah exactement, c'est ça.
Je m'écarte des gens. Ouais.
C'est ça.
Quand je choisis.
Il faut choisir ses relations.
C'est ça. Je choisis mes relations. Et aussi, il y a des personnes, il faut leur parler d'une façon, mais il y a d'autres, il faut leur parler d'une autre façon. C'est-à-dire, il faut s'adapter à la personne aussi avec qui on parle. Si le mec en face, il est plein de tension, il est plein de nerfs, on ne va pas lui parler tendu. On va essayer de le calmer en lui parlant bien comme il faut, mais sans l'énerver, parce qu'on voit qu'on a une façon de parler. Avec chaque personne, on peut avoir une façon de parler. On s'adapte à la personne en face de nous.
Le surveillant.
Même le surveillant, je pense que c'est ça aussi.
Oui.
Oui. Moi, j'ajouterais à ce qui a été dit, le problème dans les prisons, c'est quand même l'oisiveté. On a des détenus qui passent la majeure partie de leur temps dans des cellules. Les condamnés ne sont pas condamnés à faire.
C'est ça.
À faire quelque chose.
Ils sont condamnés à rien faire.
Ils sont condamnés à ne rien faire. Donc, ils sont seulement condamné une privation de liberté. Voilà.
Est-ce que c'est finalement pas un des défis de la prison? Je parle en tant que membre de l'administration pénitentiaire. Le défi serait de pouvoir proposer des activités. On voit pour Fabrice et pour Béni à quel point l'activité, c'est quelque chose d'essentiel pour eux. Si tous avaient une activité, ça irait peut-être mieux, Olivier, non?
On sait aussi qu'il y a certaines activités qui sont en faveur de l'apaisement des tensions. Par exemple, on va parler de la sophrologie. Des cours de yoga, par exemple. Ce sont des disciplines qui permettent un apaisement, que ce soit du côté des détenus, pour faire face à cette violence. Pourquoi ? Parce qu'on est contenu dans une cellule de 9 mètres carrés. Et c'est encore exacerbé si on est deux ou trois en cellule de 9 mètres carrés. Voilà, ces disciplines peuvent apporter du bien-être également au personnel de surveillance.
C'est ça. Votre destin est lié, en quelque sorte, sur l'attention. L'attention, tout le monde l'éprouve, oui. Aussi bien oui, les oui. Surveillants que... Alors, vous parliez de sophrologie, Edwige, un mot, parce qu'il y a quelque chose qui est choquant, et plus que choquant, d'ailleurs, qui est révoltant, c'est l'exploitation médiatique qui est faite, et politique, qui est faite des activités en prison. Et des activités comme ce que vient de dire Olivier, la sophrologie, on entend déjà tout de suite un discours politique. Ah ben voilà, dans la prison, on leur fait faire du yoga. Ça vous hérisse pas, ça? Ces polémiques qu'on a eues, le karting à Fresnes, les massages ou je sais pas quoi, alors que, en fait, c'est essentiel au travail éducatif.
Exactement. Et j'ai travaillé plus de 15 ans en prison. Je peux vous assurer que l'hôtel 4 étoiles, il n'existe pas. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Ce sont des conditions difficiles, comme le disait Olivier. Une condamnation à une peine de prison, ça doit être strictement la privation de la liberté, ce qui est déjà énorme. Depuis l'abolition de la peine de mort, il y a 45 ans, bientôt, toutes les personnes qui sont condamnées en France sont amenées à sortir de détention. À un moment, il faut que notre société, elle décide de comment elle veut réintégrer ces personnes-là. Est-ce qu'on veut que notre voisin qui a fait 5 mois ou 10 ans de prison sorte dans les meilleures conditions possibles ou pas ? On a parlé des conditions qui étaient compliquées, d'être à 3 ou 4 en cellule de 9 mètres carrés, d'avoir des douches communes, la promiscuité, l'oisiveté. À un moment, si on ne permet pas cet espace de socialisation, de respiration, par le biais d'activités socioculturelles, sportives, nos prisons vont imploser, nos personnels seront en danger et notre société ne sera pas plus protégée.
Au contraire.
Au contraire. Donc, à mon sens, c'est un projet sociétal. Il faut que cesser d'instrumentaliser en fait ces activités qui existent depuis des années et qui se passent généralement très bien. Quand on parle du karting à Fresnes, ça a été dévoyé, puisqu'en fait, c'était pour une association caritative. Ces activités, elles ont toujours un sens, en fait. Et c'est pas expliqué, c'est dommage.
Oui, alors, cette émission arrive à son terme. Malheureusement, on aurait pu continuer à discuter. Je voudrais faire un petit tour de table rapide sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Voilà, on a parlé de la prison, on a parlé de cet art fondamental, on a parlé aussi de l'espoir qui est possible dans les murs, on a parlé de la sortie. Première réforme, une idée, une utopie qui pourrait améliorer les choses. Je vois sourire Fabrice.
Y a pas 50 000 secrets, il faut des sous à un moment.
Oui.
Et on voit toutes les personnes qui sont en charge de notre insertion. Alors en plus, bien et moi, on bosse aux activités, donc on les croise tous les jours, et ils sont de moins en moins. Donc comment est-ce que vous voulez qu'on refoute un pied dehors correctement un jour s'il n'y a pas un encadrement qui peut nous permettre de le faire? Puisque nous, ici, comme on est en prison, on n'a pas les outils pour le faire nous-mêmes. Il faut nous donner de l'aide. S'ils ne sont plus là...
Béni.
Moi, ils m'ont bien encadré, donc je ne sais pas quoi dire. Moi, ça s'est bien passé... Niveau activité.
Votre regard est assez positif.
Moi, c'est positif, moi. Niveau SPIP, niveau surveillant, niveau prison. Moi, quand je suis à ma première cellule, c'était avec douche. Donc, j'ai pas connu la douche
collective.
Si, aux arrivants, mais bon, c'était une fois.
Tu as bien eu de la chance.
On a resté 3-4 jours. Bien sûr, j'ai eu de la chance. C'est ce que je dis. Peut-être que j'ai de la chance. Je sais pas. Donc, pour ça, je me plains pas.
Ben, c'est bien, Olivier.
Alors moi, je pense qu'il faut proposer des formations aux personnes qui sont incarcérées. Une formation qui va amener à un métier. On sait pertinemment qu'il y a des métiers en tension dans la société. Et par exemple, des métiers de la cuisine.
Oui, de l'hôtellerie.
L'hôtellerie, ce sont des très bons métiers et qui pourraient permettre aux gens de s'insérer facilement.
Alors, maintenant, Edwige, à vous revient de dire votre vœu, votre souhait sur la prison.
On n'a pas inventé d'autres outils que la prison. Moi, je pense qu'il faut des prisons à taille humaine, et pour les personnes détenues et pour les personnels de surveillance. Je pense qu'on incarcère trop, on a dépassé 80 000 détenus, on est effectivement toujours moins de personnel.
Plus de prisonniers, moins de personnes pour les encadrer et s'occuper d'eux.
C'est ça. Et je pense qu'il faut développer les peines alternatives, les placements à l'extérieur. Et pour ça, il faut effectivement des moyens et une volonté politique d'insertion.
Cette volonté politique, vous la ressentez pas tellement en ce moment, et ça risque de pas s'arranger. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre. Merci à Fabrice et à Béni, détenus à cette prison de Saint-Étienne. Merci à Olivier, agent de surveillance électronique. Merci à Edwige. Et tous, chacun va retourner dans sa cellule et ses fonctions. Et on en a bien conscience, et on vous remercie encore d'avoir participé à cette émission. Alors, cette émission n'aurait pas pu s'enregistrer sans le soutien de l'administration pénitentiaire de Paris, il faut le dire, et puis avec le soutien de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon pour la région Rhône-Alpes et son directeur Paul Louchouarn. Merci à la directrice de la maison d'arrêt de Saint-Étienne, Madame Cécile Rode, qui nous a ouvert ses portes. Merci à Bertrand Casmarec, on n'a pas beaucoup parlé de lui, mais tous les deux, Edwige et Olivier, vous faites partie d'un diplôme universitaire de philosophie sur le sens de la peine, qui est organisé par Bertrand Casmarec et l'Université de Dijon. Et puis merci à Noémie Petroff, directrice du SPIP, qui nous a également accueillis à la technique qu'il y avait ce soir. Raymond Alboui, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Laurence Genepin, une émission d'Antoine Garapon.